protestant peut en cacher un autre. Une émission préparée et présentée par Yolande Fourchard-Gounel.
Bonjour à tous. On se retrouve avec Raymond Huard, professeur honoraire d'histoire contemporaine à Paul Valéry, Montpellier 3, à la suite de la semaine dernière pour finir le rappel historique du protestantisme gardois au XIXe siècle. Alors je rappelle, ou plutôt je dis à ceux qui auraient loupé l'épisode précédent, qu'ils peuvent retrouver nos émissions sur le site de la radio, ou s'ils ne le trouvent pas, qu'ils demandent les liens par mail à un protestant peut en cacher un autre. Je vous redonnerai à la fin de l'émission. Alors bonjour Raymond Huard.
Bonjour, oui.
Donc, on arrive à la Seconde République en 1848. Et j'ai appris en leçon d'histoire, il y a longtemps, que les curés avaient en grande partie adopté le nouveau régime de la Seconde République. Alors d'abord, est-ce que c'est exact? Et qu'est-ce qu'il en est des protestants?
Donc, la Révolution de 48 modifie profondément la situation des protestants gardois, et aussi d'ailleurs celle des catholiques. Les leaders royalistes dans le Gard, qu'on qualifie de légitimistes, sont donc partisans de la branche aînée des Bourbons, de la famille du roi Louis XVI guillotiné. La chute de Louis-Philippe ne peut que les réjouir, d'où le ralliement des curés à la République, puisque ces catholiques et légitimistes, travaillent ensemble. La chute de Louis-Philippe, c'est en somme une punition pour avoir chassé Charles X, le dernier frère de Louis XVI, de l'avoir chassé du pouvoir. Mais ne nous y trompons pas, ce ralliement est tout à fait opportuniste et temporaire, car les royalistes pensent bien que cette République sera provisoire et qu'on passera très vite à une restauration.
Évidemment, ils ne savent pas encore qu'il n'y aura jamais de restauration, en tout cas jusqu'à maintenant.
Oui, non, ils ne le savent pas. Ils ne le savent pas et d'ailleurs, ils ne croient pas qu'il n'y en aura pas. La République de 1848 apporte un élément nouveau et très important, c'est le suffrage universel masculin, il faut le rappeler.
Oui.
Et le suffrage universel va en quelque sorte clarifier la situation politique du Gard et va la clarifier au détriment des protestants puisqu'ils sont minoritaires dans le département. Et la clarifiera aussi aux dépens des républicains qui sont également minoritaires. Alors le suffrage universel fait apparaître dans toute sa force la situation de minorité des protestants gardois. En effet, les royalistes vont faire jouer à leur avantage l'équation, en somme, qui dit catholique dit monarchiste, et ils sont suffisamment influents pour que cet appel soit entendu. Les royalistes sont donc à peu près assurés de remporter tous les sièges de députés, les principales mairies, etc. Sauf évidemment dans les zones protestantes, mais limitées dans le Gard, on le sait, elles ne sont quand même pas majoritaires. Et c'est très visible aux premières élections générales d'avril 48.
Et en face d'eux, alors, qui est-ce qu'il y a? Il n'y a personne?
Non, il n'y a pas personne, mais en face se forme une coalition républicaine et la plupart des protestants s'y joignent, mais elle est battue d'avance en somme. Et comme on l'a vu, les royalistes monopolisent les sièges de députés et la direction des villes importantes. Alors il y a tout de même une troisième tendance bourgeoise modérée et souvent d'ailleurs majoritairement protestante qui rassemble les partisans du régime déchu de Louis-Philippe. Mais elle est très très minoritaire. Et désormais, donc, on peut dire que pour l'avenir, le problème essentiel pour les républicains va être, pour de longues années encore, pour une vingtaine d'années, de savoir comment on peut élargir cette coalition, cette base électorale encore très insuffisante, ce qui suppose de rallier D'abord, certains catholiques un peu tièdes qui ne sont pas monarchistes, il y en a tout de même, et puis aussi des modérés appartenant justement notamment au courant orléaniste.
Alors orléaniste, je rappelle pour ceux qui auraient manqué un épisode, parce que c'est quand même compliqué, donc orléaniste, c'est les partisans de Louis-Philippe, duc d'Orléans, donc une branche cadette des Bourbons, et qui vient à son tour d'être chassé en 1848.
Oui, donc n'oublions pas qu'au plan national, en 1848, la situation est quand même différente de ce qu'elle est dans le Gard. Hein, c'est-à-dire que l'Assemblée constituante élue en avril 48 est majoritairement républicaine, modérée certes, mais la constitution qu'elle vote inaugure en France une nouvelle république. Ce sera ce qu'on appellera la Seconde République. Et pour les protestants gardois, ça peut être quelque chose d'encourageant. Seulement, un événement inattendu va perturber cette nouvelle république, c'est la résurgence du bonapartisme.
Oui, alors le bonapartisme n'avait pas complètement disparu. Qu'est-ce qu'il apporte de nouveau dans la vie politique? Comment il se situe, ce bonapartisme?
Eh bien, il s'insère en quelque sorte comme une troisième voie, en particulier dans le Gard, hein, entre royalistes et républicains. Et il va nuire à tous les deux. C'est l'élection présidentielle au suffrage universel, instituée par l'Assemblée constituante, instituée bien imprudemment d'ailleurs par l'Assemblée constituante, qui est à l'origine de son succès, parce qu'elle fait intervenir un peuple majoritairement paysan, encore peu habitué à la vie politique, et qui, pour lui, cette vie politique, elle se résume à de grands souvenirs, hein, c'est-à-dire la Révolution d'une part et Napoléon de l'autre. Alors, à cette première élection présidentielle, donc, trois candidats principaux se présentent, petits candidats aussi, Louis-Napoléon Bonaparte, donc neveu de Napoléon Ier, le général Cavaignac, un bon républicain certes, mais très modéré, et un républicain démocrate avancé, un avocat, Ledru Rollin, qui a été ministre un moment au début de la Seconde République. Les royalistes, eux, ne peuvent pas présenter un candidat, car leur objectif est une restauration. Ils ne peuvent pas présenter comme candidat le futur roi, qui risquerait d'être battu d'ailleurs.
Ah oui, ils n'ont pas essayé de...
Ils n'ont pas essayé parce que c'était très périlleux s'ils présentaient candidat comme candidat le futur roi et que le futur roi soit battu. C'était un désaveu complet.
D'accord.
Alors, ils choisissent donc Louis-Napoléon, qui est jugé peu dangereux et manipulable.
Comme quoi, faut toujours se méfier des gens manipulables, parce que c'est ce qu'on retrouvera en 1933 en Allemagne avec Hitler. On a pensé qu'il était manipulable, qu'il était peu dangereux, puis on a vu où ça nous menait.
Oui, et bien Louis-Napoléon Bonaparte, lui, il était très, très peu manipulable, peu connu au départ. Il s'inscrit évidemment dans la mémoire de l'Empire, qui reste une mémoire prestigieuse malgré les défaites, malgré la catastrophe
finale.
Oui,
il y a Victor Hugo
Il bénéficie de la légende napoléonienne, une habile campagne de propagande le popularise. Les deux autres candidats sont les seuls authentiques républicains, mais Cavaignac a quand même un handicap, c'est qu'il a réprimé l'insurrection parisienne ouvrière de juin 48, et Ledru Rollin, lui, apparaît trop avancé pour recueillir d'autres voix que celles des républicains radicaux. Alors le résultat est la victoire écrasante de Louis-Napoléon.
Oui.
Les protestants se sont partagés, certainement, hein,
oui.
Mais ils sont très nombreux à avoir voté pour Louis-Napoléon. Dans le Gard protestant, par exemple, quand on regarde les résultats électoraux, Louis-Napoléon recueille entre 56 et 70% des voix.
C'est ce qui est beaucoup.
Ce qui est beaucoup.
Alors, on va faire un petit récapitulatif. Donc, 1815-1830, restauration des Bourbons. 1830, révolution de juillet et monarchie de juillet avec Louis-Philippe d'Orléans, plus libéral, mais tournant à droite. 1848, seconde république avec suffrage universel, vote pour élire un président, et c'est Louis-Napoléon Bonaparte, le neveu de Napoléon Ier, qui est élu. 1851, coup d'État, suivi en 1852, proclamation de l'Empire. J'ai tout bon ? J'en ai pas oublié, bon. Je me suis
non.
pas trompée.
Pas du tout.
Alors, cette lune de miel entre l'héritier d'une tradition napoléonienne, donc d'origine révolutionnaire, plus égalitaire, semble-t-il, et ces protestants, nos protestants, ça va durer ?
Oui et non, les choses vont un peu changer par la suite, du moins pas forcément pour tous les protestants, car Louis-Napoléon s'efforce de garder une teinture patriote. Au moment du coup d'État de 1851, par exemple, ce sont les zones rouges protestantes du département qui se mobilisent pour tenter une résistance malheureusement rapidement avortée, et la répression est très sévère. Toute la droite alors soutient Louis-Napoléon. Plus de 1000 personnes sont poursuivies dans le Gard, 160 sont déportées en Algérie, d'autres doivent fuir à l'étranger. La rupture à ce moment-là est totale entre Louis-Napoléon, qui sera bientôt Napoléon III, et les républicains, mais chez les protestants, les choses sont un peu différentes quand même.
Alors, est-ce que, justement, si chez les protestants, les choses sont différentes, est-ce que c'est l'apparition ou le surgissement des classes sociales qui divisent le camp protestant? Est-ce que le portefeuille prend l'avantage sur la mémoire des persécutions? Est-ce que les réactions se cristallisent autour de l'argent, comme Karl Marx va le soutenir, ou le désir d'ordre? Qu'est-ce qui joue dans cette...
Oui, beaucoup de choses jouent certainement. Certainement, oui, comme vous dites, le désir d'ordre. La bourgeoisie protestante, les pasteurs à de rares exceptions, se sont ralliés au coup d'État, et peut-être aussi, sans doute aussi, la fraction la moins politisée de l'électorat protestant. Et on voit aussi que quand Louis-Napoléon visite le Gard en 1852, on retrouve cette adhésion des autorités protestantes. Mais malgré tout, une évolution se produit au cours de l'Empire. Jusqu'en 1859, au début de l'Empire, c'est une lune de miel entre Napoléon III et les catholiques. Et à ce moment-là, une fraction des royalistes se rallie de fait à l'Empire, ce qui ne peut pas plaire aux protestants.
Sans doute.
Ces bons rapports se gâtent avec la guerre d'Italie, parce que la guerre d'Italie menace la situation privilégiée du pape en Italie, et alors, évidemment, les catholiques et monarchistes sont très mécontents. Le gouvernement prend ses distances vis-à-vis des catholiques et prend aussi des mesures qui leur sont défavorables. Tout cela affaiblit le parti royaliste, qui est empêtré dans ses contradictions, puisque en tant que défenseur de l'ordre, il doit soutenir le pouvoir, mais en tant que défenseur du pape, il doit être opposé au gouvernement qui semble menacer les états, la religion.
Oui, alors je reprends, il y a une évolution donc du gouvernement bonapartiste, je résume. À partir du moment où il menace la suprématie du pape en Italie, les royalistes français, qui sont totalement liés au catholicisme, ne peuvent plus soutenir ce gouvernement.
Absolument, tout à fait absolument. Alors, le résultat, c'est que le bonapartisme affaiblit le royalisme, et il a aussi aidé les catholiques à sortir de cette fameuse équation qui dit catholique dit royaliste, en offrant une autre issue, le bonapartisme. Et à partir de ce moment-là, le choix électoral devient plus clairement politique, et il va opposer désormais les royalistes, les bonapartistes et les républicains, plus indépendamment, peut-être pas totalement indépendamment, mais plus indépendamment de leur option confessionnelle.
Alors ça, c'est l'irruption d'une mutation importante. Désormais, le choix va être plus en fonction des choix politiques et moins en fonction des positionnements religieux, confessionnels. Même si on les retrouvera, peut-être on les retrouvera plus tard, notamment dans les Cévennes.
Oui, il y a des traditions qui demeurent. Ces grands changements ne s'opèrent pas pour tout le monde et au même rythme, en même temps. Alors, à partir de 1863, une opposition républicaine commence à réapparaître publiquement, et elle s'appuie d'ailleurs sur le monde protestant. Et en même temps, il faut dire que les mentalités évoluent avec l'évolution de la société que le Second Empire lui-même a contribué à moderniser. Des besoins prennent de l'ampleur, le droit à l'association, par exemple, qui est encore tout à fait brimé, la liberté de la presse, la liberté électorale, l'intérêt pour l'éducation populaire, à laquelle d'ailleurs le régime n'est pas hostile. Les protestants s'investissent particulièrement dans les revendications concernant l'école primaire, qu'elle soit obligatoire, gratuite et pour certains laïque. Des pasteurs adhèrent à la franc-maçonnerie, comme par exemple le pasteur Desmond de Saint-Geniès de Malgoires dans le Gard. Un épisode intéressant montre l'évolution des mentalités. En 1859, l'évêque de Nîmes, Monseigneur Plantier, qui est particulièrement combatif, attaque publiquement et violemment les protestants qui célèbrent alors un grand anniversaire, celui de leur premier synode de 1559. Une telle attaque antérieurement aurait pu provoquer des troubles, mais à l'époque, ça se termine tout simplement par une guerre de brochures entre les deux camps.
Oui, une guerre de brochures, c'est quand même plus sympa, ça fait moins de dégâts.
Oui, certainement, certainement, et il faut supposer que ces brochures n'étaient lus que par les gens quand même les plus cultivés.
Oui, qui étaient déjà, et puis qui étaient déjà convaincus.
Déjà convaincus, oui. Alors, c'est les protestants, donc, en outre, alors, elles sont partagées, vous savez, entre deux tendances, les libéraux et les orthodoxes, et c'est les libéraux qui l'emportent dans le Gard. Et ces libéraux défendent une religion très épurée, très rationaliste, compatible avec les idées des républicains. Alors, le régime impérial sent la nécessité de faire des concessions, de promettre plus de liberté, un régime plus parlementaire. Mais il est quand même très critiqué à cause des guerres ruineuses, comme la guerre d'expédition du Mexique qu'il a entreprise, les dépenses ruineuses de la cour et des grands travaux haussmanniens, par exemple, oui. À Paris et dans d'autres villes. Une nouvelle loi militaire, qui d'ailleurs n'était pas insensée, mais qui a quand même été mal vue parce qu'elle accroissait les obligations de service. Mais l'Empire aurait pu durer incontestablement s'il ne s'était pas lancé très imprudemment dans une guerre avec la Prusse en 1870, qui se termine par une cuisante défaite de Sedan, la captivité de l'empereur et une nouvelle révolution parisienne, celle du 4 septembre 1870, qui rétablit la République. Mais cette République va-t-elle durer ?
Alors là, donc, on est après la défaite de Napoléon III. Et l'instauration compliquée de la République, qui, sous des numéros différents, est encore en place aujourd'hui. C'est la même République.
Enfin, c'est la même République, mais c'est la troisième.
Oui.
C'est la troisième qui se profile.
Alors, les protestants, qu'est-ce qu'ils font au moment de la défaite de Napoléon III? Comment ils se positionnent, aux protestants gardois?
Il faudrait peut-être... La guerre a été un moment assez important pour les protestants parce que globalement ils étaient patriotes, mais dans le Gard notamment ils ont été attaqués toujours par le même Monseigneur Plantier d'être favorable aux Prussiens à cause de la concordance un peu des religions, hein, même si le protestantisme prussien n'est pas le même que le protestantisme en France.
Il y a eu des protestants favorables à la Prusse. Moi, j'ai lu des souvenirs d'un pasteur dans l'est de la France. Il recevait au culte les officiers prussiens et il expliquait combien c'était sympa d'entendre les mêmes chants, joyeuses étoiles du matin, brillantes étoiles du matin, qui est un chant luthérien. Et en plus, il les recevait à sa table. Les enfants ont été sur les genoux des officiers prussiens. Et le pasteur trouvait que ces Prussiens étaient quand même plus civilisés que les catholiques des campagnes environnantes qui trempaient les seins dans les rivières pour faire pleuvoir ou pour avoir des récoltes. Et effectivement, c'est pas la même. Il y a un problème culturel là. Alors cette histoire là, elle est pas toujours très bien vue par les protestants. En tout cas, pendant longtemps, même ceux qui ont entendu parler de ça chez leurs ancêtres n'aiment pas tellement en parler parce qu'ils ont peur qu'on fasse l'amalgame avec le nazisme et la collaboration. Mais bon, c'est pas la même chose. Alors, on va revenir après sur 1870.
Simplement pour prolonger ce que vous dites, je pense que c'est peut-être des événements de ce type dont vous parlez qui ont un peu rayonné, hein, et qui expliquent justement que la nouvelle se soit répandue plus largement en France, jusqu'à par exemple à Nîmes, enfin avec les attaques de Monseigneur Plantier, hein,
oui.
Et puis aussi un article du Figaro par exemple en août 1870 qui s'appelle « Les protestants et les prussiens » et qui accuse nommément les
oui.
protestants d'être complices des prussiens, d'où l'indignation d'ailleurs des protestants gardois.
Oui.
Voilà, on peut en revenir maintenant au début
voilà.
La Troisième République. Alors, donc, cette époque, oui, qui s'étend entre la chute de l'Empire et la consolidation de la Troisième République, en gros, c'est 15 ans à peu près, 1870, non, 5 ans, pardon.
Oui, 70-75.
70-75, elle est très compliquée. Bon, en deux mots, il y a d'abord un gouvernement provisoire,
oui.
nettement républicain, qui dure jusqu'à la fin de la guerre, donc jusqu'en janvier 1871. Ensuite, on élit une assemblée nationale le 8 février, et celle-ci est très conservatrice, majoritairement monarchiste, on verra pourquoi tout à l'heure. Bon, cette assemblée, rapidement, se heurte à Paris, Paris qui est restée une ville ardemment républicaine et aussi républicaine avancée. Et on assiste donc, bientôt, à partir de mars 71, à l'épisode de la Commune.
Bon. Est-ce que vous pouvez expliquer la Commune, pourquoi elle a lieu, cette insurrection?
Cette Commune est au fond, s'explique assez aisément. Hein, d'abord parce que Paris a beaucoup souffert pendant la guerre, elle a souffert dans sa... cher, parce qu'il y a eu les bombardements prussiens, etc., la famine ou presque, enfin, l'insuffisance. Et il a été quand même ardemment patriote pour se défendre, puisqu'il était investi, hein, il était entouré par les Prussiens.
Oui.
Et puis, la paix, donc, l'a quand même déçu, parce que cette paix s'est faite tout de même par la capitulation de la France.
Hein, oui.
Enfin, où l'armistice l'a déçu. Et donc, quand l'Assemblée a été élue, et majoritairement monarchiste prêt à signer la paix, il y a eu un écart, un politique considérable entre Paris et la province, écart qui était à la fois social, politique, géopolitique, pourrait-on dire aussi, et l'Assemblée n'a eu qu'une ambition, c'est de soumettre Paris le plus rapidement possible.
Oui.
Donc, conflit, Commune de Paris qui est écrasée, très brutalement par l'Assemblée et le gouvernement de l'époque, dirigé par le tiers, donc en mai 71. Et alors après, donc, on assiste à un gouvernement conservateur qui, lui, voudrait bien rétablir la monarchie.
Oui, alors oui, la monarchie, pourquoi elle n'est pas restaurée? Ça aurait été le moment.
Ça aurait été le moment, effectivement, mais il y a d'une part un conflit entre les deux branches monarchistes qui ne sont toujours pas d'accord.
Oui, les légitimistes et les orléanistes.
Et d'autre part, le candidat Henri V est extrêmement rigide, si vous voulez, psychorigide, on pourrait dire.
C'est un légitimiste,
il refuse toute concession.
C'est un bourbon.
Oui. Il refuse toute concession, par exemple sur le drapeau tricolore.
Oui, il veut le drapeau
etc.
blanc.
Oui, il veut le drapeau blanc, etc. C'est inacceptable pour l'autre partie du camp royaliste. Hein. Et au total, donc, la restauration échoue. Et alors, à ce moment-là, on va s'acheminer vers une république, de fait, d'abord, et puis de droit, hein, avec le vote en 1875 des lois constitutionnelles républicaines. Voilà.
Et alors, donc, qui est-ce qui gouverne à ce moment-là? Donc, vous avez dit Thiers,
Adolphe Thiers. Oui, alors Thiers, lui, c'est un vieux revenant, il est âgé, il a plus de 70 ans, c'est un revenant de la monarchie de Juillet. C'est un libéral, mais il est quand même assez conservateur. Et quand il arrive au pouvoir, les républicains s'en méfient. Un peu moins, sans doute, les protestants. Mais ensuite, progressivement, comme il apparaît comme une sorte de rempart contre une restauration,
oui.
Évidemment, il devient très rapidement populaire. Et les monarchistes s'en rendent compte. Et en 1873, il démissionne en quelque sorte, ouais, puisqu'il est un chef d'État, mais qui est soumis au vote de l'Assemblée, et ils mettent à sa place le maréchal de Mac Mahon.
Qui lui
aurait été beaucoup plus favorable à une restauration. Mais cette restauration échoue, et en fin de compte, il faut se résigner à accepter, bon gré mal gré, de faire un gouvernement républicain dont les monarchistes n'espèrent, d'ailleurs, ne désespèrent pas un jour de le remplacer. Mais enfin, pour le moment, c'est comme ça, quoi.
En 1875, donc les lois...
En 1875, oui.
D'accord. Et l'épisode de la Commune, on va juste poser une question, revenir dessus. Les protestants, comment ils se situent par rapport, et notamment dans le Gard?
Oui.
Qu'est-ce qu'ils pensent de la Commune?
Alors, dans le Gard, les protestants se sont partagés,
hein. Oui.
Toute petite minorité soutient vraiment la Commune, c'est-à-dire jusqu'au bout, quoi. Bon. Mais, une majorité lui est hostile pour diverses raisons, hein. Une raison qu'on pourrait qualifier de sociale, parce que la Commune apparaît trop avancée socialement, quoi. Et surtout, ils pensent, et ce n'est pas d'ailleurs totalement déraisonnable, que favoriser une révolution à Paris alors que, et donc une crise très profonde, hein,
oui,
alors que le pays est occupé, encore occupé par les troupes prussiennes, hein, que les conséquences de la guerre ne sont pas tirées, etc., c'est très dangereux, ça risque de compromettre l'avenir de la République. Cette République est très fragile, hein, on sait qu'elle est très fragile, et donc la Commune est une mauvaise chose. Enfin, c'est quelque chose de défavorable pour la République. Voilà, je crois que c'est la raison essentielle. Mais enfin, malgré tout, oui, on a l'exemple du pasteur Grotz de Nîmes. Le pasteur Grotz est un pasteur très très libéral. Il a une certaine sensibilité sociale, mais qui ne va pas très loin. Il a même des parents qui sont engagés dans la Commune, des parents un peu lointains, mais qui sont engagés dans, oui, la Commune, mais ils restent dans ce domaine extrêmement réservés, oui, extrêmement réservés.
Oui. Oui. Il y a eu personne dans le Gard.
Alors si, il y a eu quand même des gens qui ont constitué une sorte de troisième camp, c'est-à-dire sensibles au fait que les communards étaient vraiment républicains, plus que les gens de l'Assemblée, ayant montré leur patriotisme par la défense héroïque de Paris, eh bien, il ne fallait pas qu'ils soient vaincus et écrasés, et il fallait donc qu'il y ait une sorte de conciliation entre la Commune et l'Assemblée. Et ce courant se manifeste en particulier dans les zones protestantes, dans les villages et les associations du Gard, par des adresses à l'Assemblée, des pétitions auprès de tiers, pour demander que l'on cherche à tout prix une conciliation entre la Commune et l'Assemblée pour aboutir à un règlement pacifique du conflit, solution qui sera refusée par tiers, oui, et par l'Assemblée, et aboutira à l'écrasement de la Commune et à un effroyable bain de sang.
Et alors, vous avez évoqué le mot « patriote » à plusieurs reprises,
oui.
Et la dernière fois, on a défini le mot patriote comme n'ayant pas de rapport avec le nationalisme, même s'il y en avait un peu, mais étant surtout le patriote était celui qui acceptait la révolution, les valeurs de la,
oui,
révolution. Et là, on parle de patriote, la Commune patriote, et là, ça devient nettement nationaliste.
Oui, enfin.
Alors, à quel moment ça, voilà, comment ça s'est fait, ce,
oui,
basculement?
Ah non, oui, alors je crois qu'effectivement, le mot patriote, dans l'acception que j'ai définie, au fond, ne subsiste pas au-delà de, je pense, de 1848. Hein, c'est plutôt la période, donc, qui va jusqu'à 1848. Et après, effectivement, en particulier en 1870, on n'est pas nationaliste, mais enfin on est national, hein, on est patriote au sens où on défend la terre patrie. Et alors là, justement, en 1870, le conflit entre ceux qui veulent absolument continuer la guerre, alors que D'autres veulent la finir au plus vite. Hein. Il y a vraiment un conflit très très marqué. Hein. D'un côté, il y a les royalistes et même les modérés qui veulent absolument finir en vitesse avec la guerre. Et puis ceux qui espèrent, avec des hommes comme Gambetta, par exemple, qui lui n'est pas quelqu'un de particulièrement avancé par ailleurs, hein, mais ils veulent continuer la guerre. Et là, le conflit est extrêmement violent. Hein. C'est voilà, nous sommes là dans un moment très décisif pour le patriotisme au sens plus
moderne
du terme. Voilà.
D'accord. Et alors, bon, on vient à la Commune. Donc, les protestants, puisqu'on parle d'eux, les protestants du Gard, comment ils ont réagi à la répression? Parce que cette répression de la Commune a été horrible. Est-ce qu'ils ont protesté? Est-ce qu'ils ont...
Non, on ne voit pas de... Non, parce que, voyez, d'une part, il faut se rendre compte que la Commune, c'est loin.
Oui.
C'est loin de Lugard. Même les destructions, la répression, etc., on ne le voit pas. C'est pas comme à la télé.
Bien sûr. Il n'y a pas d'image.
Donc, il n'y a pas d'image. Et d'autre part, la condamnation de la Commune par les leaders républicains, enfin, par certains leaders républicains, est quand même formelle. Hein, c'est-à-dire, la Commune est une imprudence. C'est quelque chose qui n'aurait pas dû avoir lieu. Certains disent même que, mais enfin, ils sont très isolés, que c'est une sorte de manœuvre bonapartiste. Vous voyez donc.
Ah carrément.
Oui. C'est les affrontements politiques là sont très forts, hein, très forts. Mais ça n'empêche pas cette sympathie profonde, hein, des milieux populaires, paysans, protestants là dans la Gardenagne, dans la Cévennes, pour les communards qui sont eux de bons républicains et de bons patriotes. Quoi. C'est cool. Compliqué, hein.
Oui. Et alors, après la Commune, au moment où la République commence à s'installer, donc dans les années 1875, là, les protestants, ils sont favorables plutôt à la République. Ils se positionnent comment?
Oui, alors là, après la Commune, au fond, la Commune a été une parenthèse, mais après, les choses recommencent un peu comme avant, vous voyez. Hein, c'est-à-dire, parce que la Commune est un événement... Même s'il y a eu des communes de province, Marseille, Narbonne, etc., Lyon.
Il n'y a pas eu à Nîmes.
Non, il y a eu des mouvements populaires assez favorables à la Commune, mais enfin, très courts et sans incidence.
Ouais.
Un événement lointain comme ça, hein, ça n'a pas effrayé, malgré tout, les électeurs gardois dans leur masse. Vous voyez.
Ouais.
Alors, la répression dont vous avez parlé, très brutale, peut faire craindre, en revanche, qu'elle s'étende plus largement au camp républicain. Hein. Ça, c'est une crainte très réelle. Hein, oui. Bon. Alors, en juillet 71, donc, on a dans le Gard deux élections partielles parce qu'il y avait eu des candidats qui avaient été élus dans plusieurs départements.
Ouais.
Et là, on voit bien que l'opinion républicaine et l'opinion gardoise s'est ressaisie. Par rapport aux élections de février 71, et deux candidats républicains sont élus de justesse, mais enfin ils sont élus quand même, et on voit bien les changements apportés par l'Empire, parce qu'on voit se faire une coalition au sein de la masse des protestants, une partie des catholiques du Gard, les moins engagés, les plus tièdes, hein, ceux qui ne suivent pas les conseils des leaders royalistes, et puis aussi des bourgeois protestants qui modérés, qui étaient jusque-là attachés à la famille de Louis-Philippe, et c'est cette coalition qui fait une majorité finalement républicaine pour le Gard, majorité républicaine pour la première fois dans son histoire, hein, il y a une majorité républicaine nette pour dans le Gard.
Et alors voilà. Ils sont favorables à Thiers.
Ils ont été favorables parce que déjà en juillet 71, ils sont toujours favorables à Thiers, mais alors justement la démission de Thiers par l'Assemblée va accentuer cette solidarité avec Thiers, bien qu'il soit démis, et son l'opposition à MacMahon parce qu'il est considéré comme
il est très légitimiste,
en tout cas il aurait certainement pas contrarié une restauration.
Oui. Et alors, donc, les protestants s'engagent comment dans la vie publique au niveau national, alors?
Eh bien, ils sont Donc, le soutien tiers est très réel, je pense.
Ouais.
Mais il y a aussi, à l'époque, toute une vie publique qui est quand même très vivante. Hein. Et par exemple, les protestants participent très activement en 1972 et 73 à une grande pétition pour l'instruction publique laïque et obligatoire qui est lancée par la Ligue de l'enseignement. La Ligue de l'enseignement avait été fondée en 1866. Et cette pétition obtiendra un très bon succès dans le Gard. Elle obtient 29 000 signatures, ce qui est un très bon résultat à l'échelle nationale. C'est le cinquième département français, hein, en nombre de souscriptions. Et puis ensuite, en septembre 73, après l'éviction de Thiers par l'Assemblée, alors là, on a encore quelque chose de plus intéressant. C'est une pétition lancée par des pasteurs gardois qui alertent sur les dangers que représente pour les protestants, présenterait pour les protestants, ouais, une restauration monarchique. Car c'est la première fois qu'une telle initiative se produit, une initiative publique de protestants qui disent nous ne voulons pas
de
la restauration.
Et ça vient du Gard, donc.
Et
les pasteurs qui l'ont fait, c'est des pasteurs, ils étaient plutôt marqués libéraux, ils étaient plutôt marqués...
Non, parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de parallélisme entre les options libérales, orthodoxes ou église libre. Il n'y a pas de parallélisme entre les opinions politiques et les opinions
confessionnelles.
On peut être très bien orthodoxe et plutôt avancé par ailleurs, quoi. Donc la République, alors elle existe à partir de 75, elle est constitutionnalisée, hein, mais tout peut encore changer, hein, on peut faire une réforme de la Constitution. Et donc c'est dans les années 75 à 79 en gros qu'elle va s'établir définitivement et gagner la partie à partir de 79.
Oui, et puis il y a plus de prétendants à la couronne.
Il est toujours là.
Alors c'est celui qui le dernier là, c'est Henri V, c'est l'enfant du miracle, longtemps après la mort de son père.
Un peu de temps, oui. Après, je crois que l'assassinat du duc de Berry, ça doit être, si je ne me trompe pas, vers 1840, par là, oui.
Qu'il est né plus de 7 mois après la mort de son père.
Le duc de Berry.
Et alors, le fait qu'il soit enfant du miracle, ça a dû contribuer à le faire bien voir par les milieux catholiques.
Mais d'ailleurs, à Nîmes, il est très populaire. Il y a une chanson qui dit « Si Henri V venait demain, ça serait la grande joie, etc. Nous irons le voir, nous y amènerons les enfants, etc. Et il y a une profusion de dessins sur les différentes étapes de la vie d'Henri V au berceau, à 4 ans, à 18 ans, à 20
ans. On l'appelle Henri V alors qu'il n'a jamais été Henri V.
Il n'a jamais été Henri V, non. Mais comme Louis XVII, qui n'a jamais régné non plus.
Oui, d'accord. Mais bon, là, on est vraiment en République, et alors, cette République, elle commence très conservatrice.
Elle réussit à s'implanter.
Voilà. Et donc, on ne sait pas ce que ça donnera à la suite. On le sait, mais bon, pas dans cette émission, vous ne le saurez pas. Sauf si on fait la suite. Si vous le demandez, notamment à l'adresse mail que je vais répéter, à protestant peut en cacher un autre, @radiofmplus.org. Alors, je vous remercie Raymond Huard pour ces entretiens qui ont été très intéressants sur les protestants gardois et leur rapport à la politique nationale. Et puis, je dis merci à nos auditeurs et à la semaine prochaine. Au revoir.
Protestant peut en cacher un autre. Une émission préparée et présentée par Yolande Fourchard-Gounel.